SBS Radio.
Les grands titres de l'actualité de ce mardi 10 juillet 2018. Dans l'ouest du Japon, des inondations et des glissements de terrain ont provoqué la mort d'au moins 122 personnes. En Thaïlande, 8 des garçons ont déjà été sauvés dans le nord du pays. Le sauvetage continue pour extraire les 4 autres garçons restants et leur entraîneur. La météo risque de compliquer la mission. Au Royaume-Uni, les démissions au sein du gouvernement se succèdent, notamment les pro-Brexit fragilisant le gouvernement de Theresa May. Et puis en sport, le Tour de France s'est lancé samedi dernier, le 7 juillet. Et puis demain matin, très tôt à 4h du matin en Australie, c'est le match tant attendu France-Belgique. Dans l'ouest du Japon, des inondations et des glissements de terrain ont provoqué la mort d'au moins 122 personnes. Le gouvernement a ordonné l'évacuation de près de 6 millions d'habitants vers des refuges temporaires. Le Premier ministre Shinzo Abe a annulé son voyage prévu en Europe et au Moyen-Orient, alors que le gouvernement japonais intensifie ses opérations de sauvetage. Des milliers de maisons ont été inondées, des routes et des chemins de fer détruits. Takahiro Ozumi est le directeur d'un programme d'aide aux victimes à Tokyo, on l'écoute.
Habituellement, à cette époque de l'année, c'est la saison des pluies au Japon. Mais là, nous avons atteint un niveau exceptionnel. Nous le mesurons à la quantité de dégâts que nous voyons. Il y a encore des personnes qui vivent dans des zones reculées. La plupart sont des personnes âgées qui n'ont pas eu le temps de partir de leur maison et sont maintenant bloquées à l'intérieur. Alors les équipes de secouristes font de leur mieux pour les transporter vers des endroits plus sûrs. Les dommages les plus importants sont probablement ceux causés à nos infrastructures, c'est-à-dire les routes et chemins de fer. Dans beaucoup d'endroits dans l'ouest du Japon, les routes ont été recouvertes par des glissements de terrain, les chemins de fer et les ponts détruits. Les maisons sont sous l'eau et les gens ne peuvent rien y faire pour l'instant jusqu'à ce que le niveau de l'eau baisse. Ce que nous ne savons pas, c'est combien de temps va durer l'évacuation et en fonction de ça, les besoins des personnes changeront.
Propos recueillis par Zinat Hansrod pour RFI. En Thaïlande, 8 des 12 garçons piégés dans une grotte au nord du pays depuis plus d'une quinzaine de jours ont déjà été secourus et sont maintenant à l'hôpital et en sécurité. Mais encore 4 autres garçons et leur entraîneur sont coincés. Leur sauvetage dépendra de la météo sur place, selon les forces thaïlandaises. De fortes pluies sont attendues cette semaine. Les autorités craignent des montées d'eau dans les tunnels de la grotte, ce qui rendrait le prochain sauvetage périlleux. On écoute le chef de mission thaïlandais Narongsak au Sotanakorn.
We have succeeded. Like I have said, we were 2 hours faster than yesterday. We expect that with the preparations and plan discussed today, we think that we will do even better for the next mission, and we will succeed 100%.
En Australie, dans le nord de l'état du Queensland, on parle d'une expérience réussite faite sur des moustiques qui pourrait être la clé pour sauver des millions de personnes infectées par des maladies telles que le virus Zika. Le CISRO a indiqué que les scientifiques avaient réussi à éliminer plus de 80% de la population de moustiques, Aedes aegypti, dans 3 endroits autour de la ville d'Innisfail pendant 3 mois. L'expérience s'agissait de libérer des millions de moustiques mâles stériles qui s'accouplaient avec des femelles, mais ne pouvait pas produire de progéniture. L'insecte est responsable d'infecter près de 400 millions de personnes dans le monde avec des maladies comme le virus Zika, la dengue ou le chikungunya. La recherche pourrait être cruciale dans les zones urbaines densément peuplées, en particulier lorsque le changement climatique et les températures plus chaudes signifient que les moustiques se déplacent au-delà des zones tropicales. En Europe maintenant et en Angleterre, Boris Johnson a démissionné de son poste de ministre des Affaires étrangères hier, jetant le gouvernement dans le chaos, alors qu'il tente de négocier un accord Brexit avec l'Union européenne. Sa démission est intervenue moins d'un jour après la démission du secrétaire du Brexit David Davis. Monsieur Davis a déclaré qu'il démissionnait parce qu'il sentait que les politiques du Premier ministre Theresa May s'appellent les négociations de sortie et que le Parlement ne retrouverait pas vraiment ses pleins pouvoirs après avoir quitté l'UE. Dans sa démission, M. Johnson a affirmé que la Grande-Bretagne finirait comme une colonie de l'Union européenne dans le cadre des plans actuels du gouvernement pour ses relations commerciales avec le bloc après le Brexit l'année prochaine. Commentant les démissions au Parlement, Mme May a été accueillie par des rires moqueurs de la part de l'opposition.
I want to recognise the work of the former Secretary of State for exiting the European Union, for the work he did to establish a new department and steer through Parliament some of the most important legislation for generations. And similarly, to recognise the passion that the former Foreign Secretary demonstrated in promoting...
Et le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn a déclaré que les démissions montrent que Theresa May est incapable de gérer les négociations sur le Brexit avec l'UE. Selon lui, on l'écoute.
How can anyone have faith in the Prime Minister getting a good deal with 27 European Union governments when she can't even broker a deal within her own cabinet?
En France, Emmanuel Macron était face aux parlementaires réunis en congrès au château de Versailles. Le président français a prononcé un discours d'environ une heure et demie dans lequel il a défendu l'action menée depuis le début du quinquennat. Valérie Cazé-Richard-Rifneau y était pour RFI.
Et Emmanuel Macron a résumé lui-même sa posture en déclarant qu'il était venu à Versailles humble mais résolu. Humble parce qu'il a reconnu que les colères n'avaient pas disparu, qu'un président ne pouvait pas tout faire. Et il a donné l'impression de prendre acte de l'impatience et de la déception des Français.
Je suis parfaitement conscient du décalage entre l'ampleur des réformes engagées et le résultat ressenti. Il faut du temps pour que la transformation initiée s'imprime dans la réalité du pays. Et je suis conscient qu'il me revient, chaque fois que nécessaire, de rappeler le cap.
Un président humble donc, mais aussi résolu, notamment à riposter à ceux qui ont critiqué le fait qu'il n'assiste pas au débat qui suit son discours. Et il a donc annoncé qu'il avait demandé au gouvernement de déposer un amendement au projet de loi constitutionnelle pour lui permettre l'année prochaine de rester et de répondre. Et puis Emmanuel Macron a défendu la priorité accordée depuis son élection aux réformes économiques et il a répondu à ceux qui l'accusent d'être le président des riches en mettant un argument en avant. Son action, c'est un bloc, a-t-il dit, une cohérence en clair pour le président de la République. Il n'y a pas une action économique et une action sociale, mais la force de l'économie, c'est le socle du projet de société. Un projet de société qui doit passer par un nouveau contrat social. Et le chef de l'État a annoncé que pour en discuter, il allait rencontrer les partenaires sociaux le 17 juillet à l'Élysée. Valérie Gasse, Richard Rifoneau à Versailles, RFI.
En sport et en cyclisme, l'Australien Richie Porte a récupéré un peu de temps après que son équipe du BMC Racing ait remporté la victoire dans le contre-la-montre par équipe sur la troisième étape du Tour de France. Porte, qui a perdu 51 secondes dans la première phase après avoir été retardé par un accident, a aidé BMC à battre Team Sky de 4 secondes après avoir complété le circuit de 5 km autour de Cholet en 38 minutes et 46 secondes. Porte a déclaré à SBS que l'équipe avait bien travaillé ensemble pendant le contre-la-montre.
I felt good. Obviously, with the big guys we got in the team, I was tucked up under the wheel there pretty well. I think it went really well. We came and looked at the course a couple of times on Wednesday, and you know, the recon went well, and I think we did a good race, as probably as good as we could have done.
Et le coureur belge de BMC, Greg Van Avermaet, a pris le maillot jaune après la spéciale avec l'équipe de Quickstep Floors, terminant troisième, 7 secondes derrière Sky. L'équipe australienne Mitchelton Scott a terminé quatrième du contre-la-montre, 2 secondes devant le champion du monde, Sunweb. Et en tennis, rapidement, Roger Federer a remporté les quarts de finale de Wimbledon pour la 16e fois avec une victoire de 6-0, 7-5, 6-4 contre le français Adrian Manarino. L'adversaire de Federer dans les 8 derniers sera le Sud-Africain Kevin Anderson. Et la météo de ce mardi 10 juillet, 21 degrés et du soleil pour Perth, 15 degrés partiellement nuageux à Adélaïde, conditions similaires avec 14 degrés pour Melbourne, 12 degrés partiellement nuageux pour Hobart, 13 degrés à Canberra, 16 degrés et plutôt ensoleillé pour Wollongong, 17 degrés ensoleillé avec quelques nuages attendus dans la journée pour Sydney, 17 degrés et quelques petites averses pour Newcastle, 21 degrés partiellement nuageux pour Brisbane, 25 degrés et conditions similaires pour Cairns, et puis enfin 31 et du soleil pour Darwin. Et en bourse, rapidement aujourd'hui, pour un dollar australien, vous avez 0,72 US dollars, 0,60 euros et 0,53 livres sterling. Un retour sur les grands titres de ce mardi 10 juillet 2018. Dans l'ouest du Japon, des inondations et des glissements de terrain ont provoqué la mort d'au moins 122 personnes. En Thaïlande, 8 des 12 garçons ont déjà été sauvés dans le nord du pays. Le sauvetage continue pour extraire les 4 autres garçons restants. Et leur entraîneur, la météo, risque de compliquer la mission. Au Royaume-Uni, les démissions au sein du gouvernement se succèdent, notamment les pro-Brexit, fragilisant le gouvernement de Theresa May. Et puis en sport, le Tour de France s'est lancé samedi dernier, le 7 juillet. Et puis demain matin, très tôt, à 4h, en Australie, c'est le match tant attendu France-Belgique.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.